France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, astralement vôtre. Épisode 1. Ça marche pas, mais j'y crois. Le 3 juillet 1969, les astrologues Jacqueline Aimé et Joël de Gravelaine sont invités sur France Inter au micro de Jacques Chancel. C'est tout à fait le genre d'invitation que les journalistes de radio préfèrent lancer à l'approche de l'été plutôt qu'au milieu du mois de novembre, comme si avec le soleil, on pouvait laisser de côté les sujets dits sérieux et passer à ceux qui sont considérés comme futiles. Il faut dire que dans la plupart des médias, le traitement de l'astrologie s'est toujours situé plutôt du côté de la détente et de l'amusement. On considère volontiers le phénomène comme une tradition balnéaire, une récréation sur le sable qui permet au passage de parler de soi et de faire parler les autres d'eux-mêmes sans en avoir l'air. Ce côté distancié vis-à-vis de l'astrologie est encore davantage affirmé sur les chaînes du service public, qui n'ont jamais été les plus friandes d'horoscopes, hormis à quelques rares moments. La seule fois où Antenne 2 en a diffusé un régulièrement, c'était en 1975 à 20h30 et il durait 2 minutes. Les parlementaires et la presse nationale avaient été ulcérés par cette initiative qui n'avait pas fait long feu à l'antenne. Quelques années plus tôt, au début de l'été 1969, on s'autorisait quand même sur France Inter à regarder les étoiles. Il s'agissait de prédire l'avenir du personnel politique et en ce 3 juillet 1969 donc, l'avenir semblait mal se présenter pour le ministre de l'économie.
Non, il y a un autre personnage qui nous intéresse plus particulièrement car il est le gardien de nos deniers, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Alors, vous le situez de quelle manière, lui ?
Valéry Giscard d'Estaing, nous pensions qu'il aurait actuellement des opportunités politiques certaines qui sont vérifiées, mais nous avons prévu pour lui la fin de sa carrière et d'une façon vraisemblablement assez brutale.
Véritable chute.
Vers 74-75. Oui. Son avenir est ailleurs.
Mais comment vous pouvez dire des choses aussi brutales et aussi exactes ?
Eh bien.
Vous ne vous trompez pas.
Nous ne pensons pas nous tromper parce qu'il a, nous pouvons le traduire si vous voulez en termes astrologiques, parce qu'il a Pluton au milieu du ciel, carré à la Lune, c'est-à-dire que c'est un homme qui ne peut pas être populaire.
On imagine que Giscard a dû recevoir un sacré coup sur la tête en apprenant par la radio que sa carrière, qui lui paraissait pourtant prometteuse, allait s'achever dès 1974. Sauf que VGE ne s'était pas laissé impressionner par Pluton au milieu du ciel, ni par Carré à la Lune, ni par tous les autres luminaires qui étaient visibles à l'endroit où il était né, le jour et à l'heure exacte de sa venue au monde.
Le journal.
Non, VGE, il s'était retroussé les manches et il était devenu président de la République.
Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, à 48 ans. Il devient donc le 20e président de la République française, l'emportant de 370 000 voix environ devant François Mitterrand.
Dans l'histoire, les prédictions fausses et non réalisées ne manquent pas. Nostradamus avait prédit la fin de l'humanité pour l'année 1999, Paco Rabanne la chute de la station Mir sur Paris pour cette même année. Quant à Elisabeth Tessier, elle avait annoncé sur son service de télématique 3615 E-Tessier que la journée du 11 septembre 2001 se présentait sous les meilleurs auspices. Elle avait même précisé ce détail particulièrement glaçant, journée favorable au transport.
Un astrologue m'a dit, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée.
Les astrologues se trompent donc souvent. Et pourtant, nous sommes nombreux à y croire, envers et contre toutes les contradictions internes à cette pratique qui font que nos esprits rationnels devraient nous en éloigner. En effet, comment expliquer que les astrologues utilisent partout dans le monde les constellations du zodiaque alors qu'elles ne sont pas toutes visibles aux divers endroits de la Terre ? Par exemple, la Grande Ourse est invisible depuis l'extrême sud du globe, tandis que la Croix du Sud, elle, n'est jamais visible depuis l'Europe. Logiquement, un bélier, par exemple, dans ces deux régions, devrait avoir des thèmes astraux différents. Or, jusqu'à nouvel ordre, eh bien, on ne change pas de thème astral en changeant d'hémisphère. Pour les astrologues, il existe des réponses à ces critiques, notamment l'idée que les signes du zodiaque sont une grille d'interprétation psychologique valable sous toutes les latitudes. Mais alors, s'il s'agit de décrire de grands types de personnalités, pourquoi en référer aux astres ? Pourquoi ne pas se contenter de la bonne vieille psychologie ? Malgré ces contradictions, l'astrologie continue de séduire dans nos sociétés pourtant rationnelles et scientifiques. Les personnes qui consultent sont majoritairement éduquées et ne versent pas dans l'obscurantisme. On en trouve dans toutes les classes sociales, mais aussi dans toutes les cultures, car nombreux sont les peuples qui cherchent dans les astres des réponses à leurs interrogations. Nous parlerons dans le deuxième épisode de la motivation de ceux qui consultent, mais pour l'instant, intéressons-nous à la manière dont les médias se sont emparés de l'astrologie dans les dernières décennies. Nous allons aussi nous demander d'où nous vient notre conception actuelle de l'astrologie et comment sa perception a évolué. Et pour faire cela, une seule méthode, aller consulter les oracles que sont pour nous les archives.
Astralement vôtre, une série de salles des archives en deux épisodes, par Mathieu Garrigou-Lagrange, Charlotte Roux et Lily Corner.
L'astrologie, c'est donc l'idée que notre personnalité et, dans une certaine mesure, notre destin sont influencés par la position des luminaires. Pour mieux se connaître, il convient donc d'étudier notre thème astral au moment de notre naissance ou alors de lire chaque jour les orientations de notre signe. C'est évidemment de cette façon-là que les médias se sont appropriés cette matière, car ils ne pouvaient pas individualiser leurs prédictions pour chacun de leurs lecteurs ou auditeurs. Exemple ici en 1942, le plus ancien horoscope retrouvé dans la salle des archives.
De septembre 1942 sera dans l'après-midi favorable à l'amour et à ses déclarations. Dans le domaine des affaires, n'engagez rien d'important. Et surtout, méfiez-vous des jeux de hasard qui vous seront particulièrement fâcheux. Le courrier vous apportera une bonne nouvelle qui vous remplira d'autant plus de joie qu'elle se sera fait attendre fort longtemps. À votre foyer, la soirée familiale sera paisible et calme, sans heurts et sans discussions.
Philippe Zarca, vous êtes astrophysicien, vous avez publié avec Daniel Kunt un « Que sais-je » intitulé « L'astrologie est-elle une imposture ?» chez CNRS Éditions. Depuis quand est-ce qu'il y a des horoscopes dans les médias ?
Oh, ça date du début du XXe en fait. Ensuite, la diffusion médiatique, alors je ne sais plus exactement à quelle année ça remonte, mais effectivement ça s'est emparé des médias de masse après-guerre. Et voilà, ça a beaucoup d'impact.
Je crois qu'en 1937, dans Marie-Claire, par exemple, il y a un horoscope régulier. Qu'est-ce que ça signifie, ce moment, pour l'émergence de l'astrologie dans la grande presse ?
D'abord, tout le monde aime entendre à parler de soi. Ensuite, il y a eu un énorme essor de la physique, de la connaissance de l'univers, de l'astronomie à la fin du 19e, au début du 20e. Il y a eu le début de la vulgarisation scientifique. Donc on a pu penser que les gens s'intéressaient plus aux astres, donc avaient envie d'entendre un lien entre leur destinée personnelle et puis ce qui se passait dans les cieux. Et donc, qu'on le veuille ou non, notre vie de tous les jours est baignée de techniques, que ce soit l'électricité, le téléphone, les avions, tout est de la science appliquée. Et donc, quand on constate que cette technique marche, on commence à avoir foi en la science, et les astrologues jouent en fait de l'ambiguïté entre astrologie et astronomie, entre le fait qu'ils utilisent des cartes du ciel pour fonder leurs prédictions, et d'ailleurs ils n'ont eu de cesse depuis de vouloir donner un vernis scientifique à leur pratique.
Est-ce que l'émergence de la modernité que vous avez décrit, Philippe Zarca, est une explication du fait que dans les années 30, il va y avoir une montée comme ça de l'astrologie dans la population et dans les journaux ?
Alors, je n'ai pas l'explication. Je ne peux qu'émettre des conjectures. Par exemple, les enquêtes d'opinion qui ont été menées au CEVIPOF ont montré que l'intérêt pour l'astrologie, en fonction de la catégorie socio-professionnelle, cet intérêt était par exemple assez faible dans le monde paysan. Il était assez faible chez les universitaires, les diplômés de l'enseignement supérieur, en sciences en particulier. Mais par contre, il était maximum dans les classes intermédiaires, y compris des enseignants du secondaire, des gens qui avaient une culture scientifique, mais une culture scientifique partielle, incomplète. Donc je peux imaginer qu'avec l'émergence d'une certaine culture scientifique, émerge aussi un intérêt pour l'astrologie qui prétend relier le ciel aux êtres humains.
Est-ce qu'il y a des médias qui sont plus propices à l'horoscope que d'autres ? Est-ce que, par exemple, la radio est un bon média, selon vous, pour diffuser les horoscopes ?
Alors d'abord, une petite précision quand même. Il faut voir que ce qu'on veut dire en parlant d'horoscope, je pense que ça ne marche pas du tout, mais je vais quand même en parler. Il faut distinguer ce qu'on appelle les horoscopes de presse, qui pourraient se faire aussi bien dans les magazines féminins que dans les quotidiens qu'à la radio. c'est-à-dire de courtes chroniques qui vont résumer finalement la population à 12 signes qui sont en fait ce qu'on appelle le signe solaire de naissance, c'est-à-dire la position du soleil dans l'un des 12 signes au moment de votre naissance, qui est indépendant du lieu. Et en général, les médias de masse utilisent uniquement ce signe solaire pour débiter ces chroniques en 12 tranches, qui sont les 12 signes. Alors évidemment, les astrologues qui se disent sérieux sont très très opposés à ça, parce qu'ils disent que ça réduit de manière considérable la richesse de l'interprétation astrologique qui est censée se fonder sur l'horoscope complet, ou encore le thème astral complet, qui a la carte à un moment donné et en un lieu donné de la position de tous les luminaires, donc les planètes, le soleil et la lune, par rapport aux signes, par rapport aux maisons, qui est un découpage local entre eux. Donc c'est ce qu'on appelle, on a entendu le carré tout à l'heure, les triangles, les choses comme ça. Donc l'horoscope est censé être géométriquement beaucoup plus complexe et il est atrocement réduit, même d'après les astrologues, dans les médias de masse. Après, les médias de masse se valent quand il s'agit de faire de l'astrologie de masse, puisqu'ils ne peuvent que se limiter à ces courtes rubriques et non pas des horoscopes personnalisés.
Les horoscopes ont fini par devenir une rubrique obligatoire des journaux à grand tirage. On les trouve notamment dans de nombreux magazines spécialisés sur les programmes télévisés, à l'exception notable de Télérama. Mais on en trouve également dans les quotidiens de la presse régionale, ainsi que dans les magazines dits « féminins ». Aujourd'hui, l'âge d'or des horoscopes dans la presse est, il est vrai, un peu révolu. Internet permet de rendre l'astrologie plus personnalisée. Plus besoin d'avoir à écouter l'horoscope des Gémeaux, par exemple, quand on est Sagittaire. On peut cliquer sans attendre sur son signe à soi pour découvrir son avenir. Mais dans les années 60, on était encore en plein dans la vogue des horoscopes, dans la grande presse et à la radio, et tout le monde parlait d'astrologie. Écoutez par exemple cet extrait d'un micro-trottoir de 1962.
La plupart des personnes interrogées ont quelques notions d'astrologie. Elles connaissent au moins leur signe astral. Quelques-unes soulignent avec complaisance la ressemblance de leur caractère avec celui de leur signe.
Est-ce que vous connaissez votre signe astrologique ?
Oui.
C'est quoi ?
Sagittaire ?
Sagittaire.
C'est les gens qui savent ce qu'ils veulent, ça.
Ah oui.
Qui vont droit devant. Oui. Si, c'est vrai.
Si. Sagittaire,
vous êtes Sagittaire ?
Oui. Je ne sais jamais ce que je veux.
Ah bon ? Alors ?
Moi, je sais ce que je veux dans la vie. Je sais où je vais.
Ah. Sagittaire, il y a deux personnes différentes dans un Sagittaire. Hein ?
Dites-le-moi. Dites-le-moi.
Beaucoup de personnes croient cependant qu'il y a quelque chose de vrai dans l'astrologie et elles ne craignent pas de l'affirmer.
Je pense que toutes ces questions astrologiques correspondent nettement avec certaines choses qui vous arrivent dans la vie. Et sur certaines de ces questions, je pense que c'est véridique. Moi, je crois un peu aux astres, un peu, oui.
J'avoue que je ne peux pas m'empêcher d'y croire un peu. Il y a des gens très cultivés qui m'ont dit qu'ils avaient dans leur relation des amis très intelligents, des astrologues. Et ces gens-là m'ont dit qu'ils pourraient me démontrer par A plus B qu'il y avait du vrai là-dedans. Alors mon Dieu, je les ai crus, ce ne sont pas des menteurs.
Mais moi, je crois absolument, parce que j'ai ma grand-mère qui était cartomancienne. Ma mère a fait les cartes sans jamais avoir appris. Moi, je fais les cartes entre amis, comme ça, mais sans jamais avoir appris à faire les cartes par quelqu'un. Je suis tout seul, c'est un don. Je n'en profite pas, mais c'est un don. J'y crois absolument.
Vous êtes de quel signe, vous ?
Sagittaire.
Sagittaire. Et vous ressemblez vraiment à un Sagittaire ?
Oh, oui, j'ai une belle sœur.
Et vos enfants ?
Oh, formidable, la petite est du Sagittaire, c'est mon caractère.
Et l'autre ?
Le petit est du Bélier, il a bien le caractère de son grand-père, je crois.
Qu'est-ce que vous entendez dans cet archive de 1962, Philippe Zarca ?
Alors, j'entends une quantité d'âneries, mais absolument invraisemblables. Imaginons que les prédictions astrologiques par signe fonctionnent, ce qui n'est pas le cas, encore une fois. Donc, environ 5 millions de personnes vont se voir affecter la même prédiction.
Et voilà, même si parfois, de façon troublante, on ressemble à son signe.
Une horloge arrêtée a raison deux fois par jour, hein, disait Voltaire. Donc, voilà. Alors ensuite, j'entends beaucoup le mot « je crois ». Il s'agit bien de ça, il s'agit bien d'une croyance. J'entends une dame très enthousiaste qui va faire la comparaison avec la cartomancie, ce qui n'a strictement rien à voir. Il n'y a pas d'astre en la cartomancie. Et puis j'entends autre chose aussi, j'entends l'argument un petit peu d'autorité, il y a plein d'amis cultivés, intelligents, qui m'ont dit qu'ils y croyaient et que ça marchait. Bon. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que en France, quand on dit de quelqu'un qu'il est cultivé, en général, il a une culture littéraire. Et malheureusement, trop peu de gens ont une culture scientifique. Et pourtant, ce serait absolument nécessaire, parce qu'on vit, encore une fois, dans un monde technoscientifique, on a des décisions éclairées à prendre sur le climat, sur l'écologie, sur les transports, sur l'isolation, sur les énergies, sur plein de choses qui relèvent de la science.
Ce qu'on entend peut-être aussi dans cette archive, Philippe Zarkas, c'est que, au fond, les arguments pourraient très bien être des arguments qui ont été enregistrés hier. Il n'y a pas tellement de distance temporelle entre cette archive de 1962 et ce qu'on pourrait dire aujourd'hui.
Oui, vous avez raison. Je crois qu'une grosse différence aujourd'hui, c'est l'effet d'Internet. L'effet d'Internet mène, alors d'abord, pour les astrologues et leurs pratiques, ils ont une très grande facilité à trouver les sources astronomiques, en fait, de leur pratique, c'est-à-dire la position des astres à un instant donné, en un lieu donné, puisque ces positions sont obligément calculées par les astronomes qui les mettent en ligne pour des raisons de recherche, en fait, parce qu'on observe les planètes, on observe la Lune, le Soleil, etc. Bon, ça, c'est pour les astrologues. Bien sûr, ils peuvent diffuser leurs prédictions aussi de manière beaucoup plus vaste, en fait. Et puis, les réseaux sociaux ont tendance à enfermer les gens dans une bulle de croyances homogènes par rapport à ce qu'eux-mêmes croient. Et donc, dans cette bulle, évidemment, on va rencontrer plein d'opinions qui confortent la sienne. Et ça va encourager à s'enfoncer dans cette croyance, à mon avis, à tort.
Si on remonte encore plus tôt dans l'histoire que 1962, à partir de quand est-ce que cette pratique de l'astrologie, on peut la repérer ?
L'astrologie remonte à l'Antiquité. Elle a été beaucoup soutenue, en fait, par les puissants. Les gens qui pratiquaient l'astrologie étaient au départ également des astronomes. Il n'y avait pas, dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, il n'y avait pas de CNRS pour rémunérer des chercheurs pour mener leurs recherches. Donc, quand on voulait faire de la recherche en astronomie, il fallait se trouver un mécène. Eh bien, eux, ce qu'ils voulaient, c'était ce qu'on appellerait de manière moderne un retour sur investissement direct, c'est-à-dire un retour en termes de prédiction. Et donc, c'est comme ça que vous avez des astronomes éminents comme Kepler, par exemple, qui se sont livrés en marge de leur science astronomique et de leur découverte majeure à la vente d'horoscopes, en fait, la réalisation d'horoscopes et leur vente pour des puissants.
Donc, sans y croire, selon vous ?
C'est débattu dans le cas de Kepler. Il y a des gens qui disent qu'il y aurait cru, puisqu'il s'y est beaucoup livré. D'autres remarquent qu'il avait écrit que l'astrologie était une fille folle qui entretenait sa mère sage, qui était l'astronomie. Donc voilà, on peut en douter. En tout cas, il a amené des découvertes majeures en astronomie, donc strictement sans rapport avec l'astrologie. Et ce qu'il a fait pour l'astrologie, est tombé dans l'oubli, puycheque ça n'a strictement aucun intérêt. Après lui, Tycho Brahe, très grand observateur, donc un contemporain du XVIe siècle, lui-même croyait qu'il allait améliorer les horoscopes en améliorant la précision des observations. Mais, à un moment donné, vers le XVIIe, il y a eu un divorce. On peut dater ça à peu près à Galilée, puis Newton, avec l'apparition de la méthode scientifique moderne, la séparation de l'objet et du sujet, l'objectivation des connaissances, le cosmos qui devient infini avec Newton, et l'astrologie qui est éjectée de l'université par Colbert.
Voilà, il y a eu des astrologues officiels jusqu'en 1656 à la cour du roi de France.
Mmh. Il y a eu aussi une astrologue presque officielle de Mitterrand, ou de Catherine de Médicis, ou de Ronald Reagan.
Depuis Colbert et jusqu'à nous, en passant par les Lumières, c'est comme si les mêmes arguments, en faveur ou bien contre l'astrologie, devaient continuer d'être échangés sans relâche et dans le même ordre. Ces mêmes arguments transcendent jusqu'à l'âge des personnes qui en débattent. Voyons par exemple ce qu'en disent ces enfants interrogés le 7 octobre 1990.
Moi, une fois, ma grand-mère a voulu ouvrir un livre, mais le livre, il s'est ouvert tout seul. Moi, je veux dire que chose bizarre, moi, j'y crois pas, parce que comment voulez-vous que les choses bougent ?
L'esprit ?
C'est peut-être des microbes ?
C'est peut-être nous, tout simplement, on fait des ondes, on a une force qu'on ne connaît pas, et puis on l'utilise sans le vouloir, des ondes qui vont loin autour de nous.
Comme tu dis, Livy, on a peut-être une force, mais moi, ça m'étonnerait, parce qu'avec les savants, tout ça, ils l'auraient déjà vu dans le corps humain.
Moi, je veux dire que je vais à un docteur, parce que tous les mois, en lui faisant voir ma photo, il voit toutes les maladies que je pourrais avoir.
Tu dis ça, mais moi je trouve que c'est pareil. Dans les librairies, ils disent notre horoscope. Qu'est-ce qu'on en sait que c'est vrai ? Eh ben moi je dis que c'est vrai parce que j'ai regardé mon horoscope pour la semaine dernière et ils ont dit des choses. Eh ben se sont passées ces choses.
Moi je veux pas vivre avec les voyantes, avec les horoscopes, avec les trucs comme ça parce que ça m'agace. C'est des trucs qu'on peut vivre tout seul et quand ça n'existait pas, eh ben on était tranquille. Alors moi je vis toute seule, j'essaie de vivre et puis comme ça, comme j'adore les surprises, justement ça me fait des surprises.
Philippe Zarkas, votre regard, votre oreille sur cette archive.
C'est très intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup aussi de critiques qu'on peut émettre et qu'on pourrait émettre envers des adultes. Hein, quand l'un des deux dit « Eh bien moi, une fois, il y a eu ça. » Alors ça, c'est typiquement ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut faire tirer aucune conclusion, ni pour ni contre l'astrologie, d'exemple particulier. Donc sur quoi peut-on se fonder ? Eh bien on peut se fonder sur deux choses. Soit on se fonde sur les bases scientifiques, en fait, qui pourraient sous-tendre l'astrologie. Et l'un des deux gamins, en fait, en parle très bien en disant « Mais oui, les causes, les ondes, est-ce que c'est dans notre corps ?» Donc, il se pose la question. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de se poser les questions. Et sur ce plan-là, toutes les recherches scientifiques de ces deux derniers millénaires ne donnent pas le début du commencement d'un indice de ce qui pourrait fonder l'astrologie. La deuxième manière, outre chercher les causes, c'est de faire des statistiques. C'est juste quantifier ce qui est dû au hasard et ce qui peut être dû à une cause réelle. Voilà. Et les statistiques ont montré jusqu'ici que l'astrologie n'est pas fondée. Bon.
Est-ce que malgré tout, l'astrologie ne peut pas être utile et avoir une utilité pour les personnes qui la pratiquent ou qui consultent ?
Alors, il a été montré par des études sociologiques qu'effectivement, c'était des personnes plus en état de fragilité, hein, donc étudiants isolés, mères seules, personnes précaires, personnes malades, qui allaient consulter pour avoir une sorte de béquille psychologique. Bon. Alors on pourrait se dire que dans ces cas-là, ça peut aider. Mais en réalité, comme l'a très bien démontré mon collègue Daniel Kunt dans un ouvrage qu'il avait écrit avec un psychiatre, Édouard Collot, quand on a des problèmes psychologiques, des problèmes de décision, on peut aller voir un psychologue, un psychothérapeute, voir un psychiatre, faire une analyse, etc. Et dans ces diverses pratiques, le praticien qu'on a en face de nous va nous aider à trouver les réponses à notre problème en nous, en nous interrogeant, en parlant, en allant fouiller notre subconscient, etc. Quand on va consulter un ou une astrologue, l'astrologue en question va fournir des réponses qui sont supposément appuyées sur la position des astres. Et la position des astres, ça ne se discute pas. Saturne est là où elle est à un moment donné et pas ailleurs. Donc c'est extrêmement prescriptif. Et donc ça permet toutes sortes de manipulations. Donc ça donne d'abord le caractère péremptoire des astrologues qu'on a entendu dans le premier extrait sur Valéry Giscard d'Estaing. Et puis surtout, ce côté péremptoire va faire qu'on doit s'y soumettre, le consultant doit s'y soumettre et c'est la source de toute manipulation.
Sans être une science, l'astrologie permet peut-être malgré tout de s'interroger et de réfléchir sur soi-même. En cela, cela peut être utile. Mais il y a des cas où se baser sur les astres pour prendre des décisions paraît un peu plus hasardeux pour juger ou pour défendre un accusé dans un procès, par exemple. Écoutez cette avocate interrogée en décembre 1953.
Madame Madeleine Cossa, avocat à la cour. Maître ?
Je crois qu'il ne faut pas se fier aux horoscopes qui sont donnés d'une façon générale dans les journaux, mais qu'il faut avoir recours à un thème astral qui vous soit personnel. Et ce thème astral vous donne des idées d'ordre général, l'influence que les astres peuvent exercer sur votre propre personnalité, mais rien de plus. Il ne faut pas demander là des précisions qui relèvent uniquement du domaine de la cartomancienne, et à ce domaine-là, je n'y crois guère.
Mais dans votre profession, maître,
est-ce que vous... Dans ma profession, j'ai pu constater que certains délinquants qui s'étaient fait établir eux-mêmes un thème astral présentaient des cas très particuliers. C'est ainsi que ceux qui sont nés sous le signe du taureau, du verseau ou du bélier sont plus particulièrement portés vers des crimes ou des délits de coups et blessures, par exemple. Ceux qui relèvent des signes du Sagittaire, du Verseau, sont plus portés à des délits comme le vol. Et il est assez rare de voir des natifs de la Vierge être coupables d'excès, de coups et blessures.
Philippe Zarka, c'est peut-être assez dangereux, là, en l'occurrence, de juger des gens en fonction des luminaires qu'ils avaient au-dessus de leur tête au moment où ils sont
là. L'extrait qu'on vient d'entendre est limite criminel, quoi. Alors, effectivement, quand on pratique l'astrologie entre amis, comme ça, comme on se tirerait les cartes, par exemple, de manière ludique. Bon, c'est pas fondé, mais je dirais, c'est pas très dangereux. Donc là, en l'occurrence, c'est une avocate qui parle. Et son discours est proprement scandaleux. Il est aussi scandaleux quand, par exemple, vous avez des recruteurs qui vont se fonder sur le signe du candidat ou de la candidate pour décider ou non de sa compatibilité avec l'entreprise. Alors ça, en principe, ça relève de la même discrimination que le racisme ou le sexisme. C'est exactement pareil. on est né avec un signe solaire donné et pas un autre, et ben c'est comme ça, on n'y peut rien, et on n'a pas à être discriminé là-dessus, dans la mesure où c'est infondé.
Alors cette archive date de 1953, et pourtant il me semblait que l'astrologie en tant que profession était interdite à cette époque-là, et qu'elle l'a été jusqu'en 1994.
Il y avait un article du Code pénal, effectivement, jusqu'en 1994, qui interdisait aux devins et autres astrologues de tirer parti de leur pratique, mais je pense qu'en pratique, ils n'ont jamais été inquiétés, en réalité.
Si beaucoup d'entre nous croient en l'astrologie, la raison en est peut-être moins ésotérique qu'il n'y paraît. Les signes du zodiaque correspondent en effet à des symboles universels, des caractères et des schémas présents dans la société et dans nos inconscients collectifs. Philippe Zarka, est-ce que la façon dont se sont cristallisées les caractéristiques qu'on attribue aux différents signes du zodiaque tout au long des siècles peut être malgré tout une grille d'interprétation de la société ?
Ben, d'une moitié de la société, puisque cette symbolique ne correspond aux saisons, disons, et à l'univers objectif que dans l'hémisphère nord. Hein, le lion, c'est en été, c'est un signe de feu, de soleil, etc. Oui, ben, dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Je vais vous donner un petit exemple. À une époque, on a cru déceler un lien entre le signe de naissance et les performances sportives des petits-enfants à l'école. Alors, c'était vachement intéressant, une corrélation significative et tout. Et en fait, on s'est aperçu finalement que dans une classe d'âge à l'école, entre le plus jeune et le plus âgé des enfants, il y a en gros 11 mois. Et quand on a 4 ans, 11 mois de différence, ça fait une sacrée différence sur les performances sportives. Voilà, c'est ce qu'on appelle une corrélation de deuxième ordre qui n'a strictement rien à voir avec les astres.
Donc les enfants qui étaient nés en janvier étaient
exactement.
Plus forts que ceux qui étaient nés en décembre.
Qui étaient nés en juin, voilà, exactement.
Le signe des poissons débute le 19 février et s'étend jusqu'au 20 mars. C'est le signe de Neptune. C'est un très grand signe. C'est le dernier signe du zodiaque, celui qui porte de lourdes peines, mais aussi qui sait les transposer de façon splendide, aussi bien sur le plan lyrique que sur le plan musical et sur le plan mystique. C'est le signe de Chopin, le signe de Rossini, le signe de Victor Hugo, de Michel-Ange. On n'en finirait plus de citer tous les grands personnages qui ont illustré ce signe. Le vrai physique poisson possède des yeux assez écartés du nez, un peu saillants, très pâles. C'est l'œil du rêve, l'œil qui n'est pas adapté à la vie normale, à la réalité.
Est-ce que vous pensez, Philippe Zarka, qu'on peut devenir de son signe, c'est-à-dire prendre les caractéristiques, alors pas physiques, hein, comme il en est question dans l'archive, évidemment, mais prendre les caractéristiques qu'on attribue à un signe, est-ce qu'il peut se passer ce phénomène selon vous ?
Il peut, oui, si on est baigné dans un environnement qui croit en l'astrologie. Il y a ce qu'on appelle les prédictions autoréalisantes. On va être amené à faire ce qu'on attend de vous d'après ça. Mais voilà, sans plus. L'astrologue qu'on entendait dans l'extrait précédent a cité plein de gens célèbres correspondant au signe des poissons. Bon, on trouve autant de gens célèbres dans tous les signes, évidemment. Et ce qu'elle a dit, sinon de manière assez lyrique et grandiloquente sur le devenir, etc., on peut avoir le même discours, en fait, sur chaque signe. Vous imaginez qu'elle a même parlé de caractéristiques physiques, c'est-à-dire qu'il y avait à un moment donné, il y a la psychomorphologie qui prétendait expliquer le comportement criminel de certaines personnes en fonction de l'écartement de leurs yeux ou de la largeur de leur front. Bon, c'est des pratiques qu'on sait maintenant être totalement infondées, totalement fausses, qui datent d'un autre âge et qui sont parties aux oubliettes, et c'est tant mieux. Et j'en attendrai autant de l'astrologie.
Elle se poursuit, ça colle dans une danse nuptiale. Elle se défie et défile dans la ronde zodiacale.
Les médias ont sûrement exercé une grande influence dans la diffusion de l'astrologie, malgré les horoscopes vagues de la presse qui sont davantage des objets de pop culture qu'autre chose. Mais le plaisir et l'intérêt pour l'astrologie aujourd'hui semblent davantage résider dans des thèmes astro poussés, réalisés en face à face par un ou une astrologue, qui constituent avant tout un moment de réflexion sur soi-même et peut-être une aide à se projeter dans l'avenir. Mais comment travaillent ces astrologues? Quels sont leurs trucs? Et comment parviennent-ils à conseiller jusqu'au chef d'État, comme ce fut le cas pour Elisabeth Tessier? Réponse en archive dans l'épisode qui suit.